Bonjour à tous. Contre la précarité menstruelle, expérimentation de la gratuité des protections hygiéniques dans les lycées d'Île-de-France. La politique, le Rassemblement national fait sa rentrée à Fréjus et à huis clos. Marine Le Pen attendue sur le combat contre l'insécurité. Affaire Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser nie toujours son implication dans la mort de l'étudiante strasbourgeoise. Ses avocats menacent de le lâcher. Un premier match de la saison pour l'équipe de France de foot ce soir face à la Suède.
Les invités de cette matinale à 7h50, Patricia, vous recevrez
Florence Aubena, grand reporter au Monde.
Et puis l'invité à 8h20 ce matin, Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale.
France Inter.
Des serviettes et des tampons hygiéniques à portée de main, c'est donc une nouveauté de la rentrée scolaire en Île-de-France.
L'idée faisait son chemin depuis longtemps, en tout cas sur le plan national. Effectivement, l'Île-de-France se lance pour cette rentrée scolaire. Une douzaine de distributeurs de protection périodique ont été installés par la région dans des lycées pour permettre aux jeunes filles de se fournir gratuitement et sans limite. Une manière de lutter contre la précarité menstruelle qui touche dès le plus jeune âge parfois. Au lycée Blaise Pascal de Villemomble, près de Paris, ce distributeur est plutôt bien accueilli. Reportage à Jérôme Hamad.
Des tampons et des serviettes hygiéniques en libre service, il était temps pour Imane, élève en terminale.
Moi je trouve que c'est totalement une bonne idée, parce que souvent, par exemple en classe, on se retrouve à avoir nos règles. Moi plusieurs fois ça m'est arrivé au collège de rentrer chez moi, puisque j'avais taché mon pantalon quoi, et j'avais rien dessus, enfin même l'infirmière n'avait rien.
Et en plus c'est gratuit, quand on sait qu'au cours de sa vie, une femme utilise 10 000 protections en moyenne, et bien ce n'est pas un détail pour Lina.
C'est un produit quand même de première nécessité, mettre 5€ dans un paquet de serviettes ou de tampons, quand il y en a 10 dedans, bah c'est dur.
Mais les règles restent un sujet tabou pour certaines. Cheryl ne se voit pas du tout aller se servir dans ce distributeur installé au milieu d'un couloir.
C'est gênant, imaginez, vous êtes en train de marcher, il y a un garçon qui passe à côté de la machine, vous appuyez, bah ça va, vous avez vos ragnagna.
Et c'est grave qu'un garçon sache que t'as tes règles ?
Bah oui, c'est gênant, il a pas à savoir, c'est intime.
La gêne, le manque de moyens, tout cela peut avoir des conséquences catastrophiques, rappelle Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.
Nous avons une étude de l'IFOP qui montre qu'un tiers des jeunes filles n'ont pas les protections périodiques adaptées. Et donc, elles ont des protections de fortune avec tous les risques gynécologiques que ça comporte. On a même de l'absentéisme scolaire lié aux règles.
Selon l'association Règles élémentaires, en France, au moins 1 700 000 femmes sont victimes de précarité menstruelle.
Agira Mohamed, il n'ira pas. Le journal Le Figaro affirme ce matin que François Baroin a pris sa décision de ne pas être candidat à la présidentielle et qu'il le fera savoir début octobre après les sénatoriales pour ne pas gêner la rentrée de son ami Christian Jacob, le patron des Républicains. La rentrée politique du Rassemblement national ce week-end, Marine Le Pen retrouve comme l'an dernier ses fidèles à Fréjus, ville du Var, toujours dirigée par David Rachline. Elle va comme la droite insister sur l'insécurité constatée cet été. Mais l'ambiance sera morose, Maxence Lambrec, car aucun militant n'est le bienvenu. Ce sont des universités d'été à huis clos.
L'épidémie a bon dos, diront les mauvaises langues, puisque les stades accueillent jusqu'à 5000 supporters, que les Républicains reçoivent aujourd'hui 1 000 000 de militants pour leur campus d'été. Ici, pas l'ombre d'une casquette RN. Des tables rondes entre cadres à huis clos dans un hôtel et demain un discours diffusé sur Internet. L'an dernier, ici même, le parti avait eu du mal à faire le plein et Marine Le Pen était repartie agacée d'entendre sur nos ondes des militants désabusés. Un an plus tard, la flamme continue de vaciller. L'argent manque dans les caisses, les municipalités n'ont pas été un succès. Les régionales à venir s'annoncent compliquées, à en croire les premiers sondages. Alors pour lancer cette année, une valeur sûre comme la droite, le RN mise sur la sécurité, avec pour allié, surprise, le ministre de l'Intérieur, Jordan Bardella, vice-président du RN.
Lorsque je vois le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, dénoncer l'ensauvagement de la société, l'explosion des violences, je me dis qu'il reprend à juste titre le constat du Rassemblement National, mais on aimerait aussi qu'il en reprenne les mesures. Nous, on souhaite la construction de beaucoup de places de prison. Il nous manque 40 000 places aujourd'hui pour atteindre la moyenne européenne, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, et surtout, évidemment, le rétablissement des peines planchers, parce que la justice se place bien souvent du côté des agresseurs plutôt que de celui des agressés.
Des mesures à nouveau valorisées dans une campagne de communication censée susciter de nouvelles adhésions. Fréjus, Maxence Lambrec, France Inter.
L'affaire Sophie Le Tan, 2 ans après la disparition de l'étudiante le jour de ses 20 ans à Cheltigam, dans la banlieue de Strasbourg, le principal suspect, Jean-Marc Reiser, a été une nouvelle fois entendu par la juge qui devrait boucler maintenant son instruction. Et malgré les preuves qui s'accumulent, le présumé meurtrier de la jeune fille, dont une partie du corps a été retrouvée fin octobre 2019 dans une forêt vosgienne, il continue de clamer son innocence et ses avocats menacent de le lâcher, Olivier Vogel.
Près de 8 heures d'audition, le cinquième interrogatoire dans le bureau de la juge d'instruction. Pour un même résultat, Jean-Marc Reiser maintient ses explications. Il n'est pas responsable de la mort de Sophie Le Tan. Quant aux éléments à charge, les traces ADN de l'étudiante retrouvées dans la salle de bain du suspect et sur le manche d'une scie découverte dans sa cave, il s'agit selon lui d'un échafaudage de suppositions. Reste que son avocat, Pierre Giuriato, visiblement exaspéré et déçu par l'issue de ce nouvel interrogatoire, a indiqué qu'il attendait un effort de la part de son client pour qu'il réévalue ses explications, qu'il soit plus cohérent car il y a, dit-il, beaucoup d'éléments à charge contre lui. Et si Jean-Marc Reiser devait persister dans ses dénégations, l'avocat a laissé entendre que lui et son associé pourraient jeter l'éponge et ne pas le défendre dans la perspective du procès aux assises qui pourrait se tenir à l'automne 2021.
Olivier Vogel de France Bleu Alsace pour France Inter. 700 chansons, des milliers de disques vendus, plus de 4000 galas à travers le monde, une dizaine d'opérettes et de comédies musicales et des dizaines de films. Je suis tellement occupée, disait-elle, que quand je serai morte, je ne m'en rendrai même pas compte. Annie Cordy, survitaminée, voulait s'amuser et amuser par-dessus tout. Elle est morte hier des suites d'un malaise à Valoris dans les Alpes-Maritimes. Elle n'a pas pu être réanimée par les pompiers. Pour toute une génération, elle était Tata Yo-Yo ou la bonne du curé. Annie Cordy avait 92 ans et ne manquait pas une petite surprise dans le journal de 8 heures.
Ce sera le premier match de la saison pour l'équipe de France de football.
Ce soir, les Bleus jouent en Suède dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match qui va se dérouler à huis clos en raison de la situation sanitaire. Cela fait très longtemps maintenant qu'on n'avait pas vu jouer les hommes de Didier Deschamps, Cédric Guillou.
9 mois et 18 jours, très exactement, depuis le dernier match des Bleus à Tirana, en Albanie, le 17 novembre 2019. Le report de l'Euro et des matchs de préparation de mars et juin a contraint l'équipe de France à se mettre en sommeil. Une parenthèse presque inédite dans l'histoire de la sélection, puisqu'il faut remonter à l'année 1947 pour voir une période aussi longue sans match des Bleus. Si la situation sanitaire le permet, l'équipe de France va bien se rattraper en cette fin 2020. 8 matchs sont programmés pour les champions du monde d'ici la fin de l'année civile, dont 6 de Ligue des Nations, cette compétition créée pour limiter le nombre de rencontres amicales. Premier rendez-vous donc ce soir en Suède, avant de retrouver la Croatie mardi soir au Stade de France, une enceinte dans laquelle les Bleus n'ont plus évolué depuis leur victoire contre la Moldavie le 14 novembre 2019. Stockholm, Cédric Guillou, France Inter.
Et puis c'est la fin du bras de fer au FC Barcelone. La superstar argentine Lionel Messi a reculé et il a décidé d'honorer la dernière année de son contrat avec son club de toujours, dont il a accusé la direction d'avoir rompu une promesse de le laisser partir. Le festival Jazz à la Villette a débuté hier et pour tout le week-end au programme Fatoumata Diawara, Michel Portal ou encore une création autour de John Coltrane, l'un des rares festivals de la rentrée qui n'a pas été annulé malgré les restrictions sanitaires. Mathieu Curon.
Malgré les annulations, une programmation resserrée sur deux week-ends et des contraintes sanitaires, Jazz à la Villette aura bien lieu cette année. Une volonté d'exister et de se battre pour Vincent Anglade, coprogrammateur du festival.
En tant qu'établissement public, c'est aussi notre rôle, notre mission d'envoyer ce signal à la profession, aux musiciens, au public, que les concerts peuvent reprendre, que les artistes peuvent monter sur scène, que le public peut venir dans une salle de concert et qu'il faut inventer ces solutions pour essayer de sortir de ces difficultés actuelles.
Cette année, la création de Jazz à la Villette s'attaque à l'album Africa Brass de John Coltrane, un monument.
Sorti en 61, dont on va donc fêter quasiment le 60e anniversaire, qui est la première collaboration de Coltrane avec le fameux label de jazz Impulse, et qui est aussi le seul et l'unique album de Coltrane en big band.
Côté découverte, c'est Célène Saint-Aimé, le coup de cœur du programmateur.
Contrebassiste, chanteuse, un héritage caribéen, africain, avec la tradition afro-américaine et puis son ancrage français également.
Célène Saint-Aimé en concert ce soir à la Villette, en attendant Michel Portal qui jouera lui demain à la Grande Halle.
Mathieu Curon, festival donc Jazz à la Villette.
Et Michel Portal, on en reparlera tout à l'heure à 8h54 dans la chronique Classic & Co de Anna Sigalevitch. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski, plus de nuages qu'hier et puis aussi des températures plus fraîches au nord aujourd'hui.
Ah, tout à fait. Donc, la perturbation qui survole actuellement les régions du nord de la Loire au Grand Est donne des épisodes de pluie faible, notamment au nord de la Seine, mais en journée embellie avec un temps plus sec et progressivement plus ensoleillé, revenant par la Bretagne, le Val-de-Loire et la Normandie. Mais c'est maintenant de l'air frais qui arrive sur les régions de la moitié nord. Les maximales ne dépasseront pas 17 à 22 degrés de la Manche en allant vers la Loire et la Lorraine. Dans la partie sud, ce sera à peu près comme hier, souvent un ciel tout bleu, avec quand même des entrées maritimes à signaler, assez fugaces sur le Languedoc et le Roussillon, mais plus tenaces sur le Pays Basque. Elles s'étaleront d'ailleurs en journée progressivement le long des Pyrénées. Les températures de la moitié sud vont garder à peu près le même niveau qu'hier, c'est-à-dire proche de 28 à 32 degrés.